Ce soir, en cette période où l'on reparle beaucoup de féminicide et de violence, on va parler violence conjugale, entre vécu et légitimation patriarcale. C'est le thème défendu aux éditions Mardaga par Solveig Le Lorrain et David Fonte qui viennent nous en donner le fin mot.
La première, le fin mot, Eddie Kakelbergs.
J'avais peur, il me disait, moi je vais t'enterrer dans un jardin si tu fermes pas ta gueule, quoi. M'a mis une terreur en fait, même pour parler. Là maintenant je vous parle, je suis en train de réfléchir pour parler, je sais pas comment vous expliquer. Ça fait seulement un petit temps que je commence à, on va dire, à tenir une conversation convenable et encore. En fait, il m'a étranglée devant mon garçon et je n'ai pas pu le supporter parce que, en fait, il réagissait tout le temps, même qu'il y avait des enfants ou pas les enfants. Et ce qui est plus dur, c'est, à la limite, les coups, ça va. Mais c'était psychologique et c'était devant les enfants. Je lui disais toujours, arrête, pas devant les enfants. Descends-moi dans la cave, fais ce que tu veux, je m'en fiche. Mais pas devant les enfants, pas devant les enfants, pas devant les enfants. Et lui, il me disait, mais de toute façon, quoi? Tu partiras pas.
Nous sommes une sur trois. Nous avons des noms, nous avons des voix. Nous sommes nées femmes ou non. Et nous sommes là.
Ça nous semble être toujours un jour symbolique, un peu comme le 8 mars. Et en fait, on se rend compte que ce sont des jours pour aussi se rassembler entre personnes qui veulent lutter contre le système, parce qu'on pense clairement que c'est aussi le système capitaliste qui est responsable de ces violences.
Moi, ma génération, on a été éduqués dans un esprit assez machiste, où c'était l'homme le centre de la famille, l'homme le responsable, l'homme qui devait ramener le salaire, l'homme qui devait assurer la discipline. Et donc je pense que ça laisse des traces.
Pour lutter et mettre en évidence le nombre de féminicides qu'il y a en Belgique et dire au gouvernement et à nos autorités qu'ils ne font peut-être pas assez de choses pour que justement ce genre de choses n'arrive plus. D'autant plus en période de Covid où il y a eu confinement et des personnes qui se sont retrouvées enfermées avec leurs agresseurs.
Yana, Pascal et son fils.
Bonsoir donc à vous, Solveig Le Lorrain et David Fonte. À partir de quand parle-t-on de violence au sein d'un couple ?
Alors, ce qui définit la violence, c'est le contrôle en fait et la symétrie. C'est pas tant un acte isolé de violence, mais c'est cette volonté en fait d'un des deux partenaires de contrôler l'autre avec tout un tas de tactiques qui peuvent être à la fois physiques et psychologiques. C'est une relation asymétrique basée sur le contrôle.
Est-ce que, on peut imaginer que massivement, évidemment, dans l'ordre patriarcal, c'est l'homme qui soit responsable de la violence ou de la prise de contrôle conjugale sur la femme? Est-ce que pour autant, il en existe des éléments inverses?
Pour répondre à cette question, on peut s'appuyer sur une enquête récente qui a été réalisée en France, qui s'appelle l'enquête Virage, qui a été réalisée récemment et qui fait un petit peu un état des lieux de la situation chez les hommes et chez les femmes vis-à-vis des violences conjugales. Et l'enquête en France montre qu'il y a entre 1 et 3% d'hommes qui déclarent avoir subi des violences conjugales contre plus de 10% du côté des femmes. Donc déjà, il y a une différence au niveau quantitatif. Mais en fait, ce que l'enquête montre et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une différence qualitative. Parce que du côté des hommes, les violences qui sont déclarées, ce sont des faits qui sont déclarés sur des temporalités qui sont beaucoup plus courtes et pour des faits qui sont généralement des faits de violence moins graves. Alors que du côté des femmes, on déclare des faits qui sont généralement beaucoup plus graves et plus étayés dans des temporalités, on va dire, plus longues. Et ça se caractérise aussi par des formes de violence aussi beaucoup plus variées que celles qui sont subies par les hommes. Et ce que dit l'enquête Virage, en fait, c'est qu'on ne peut pas à proprement parler de violence conjugale pour les hommes. Ça s'apparente beaucoup plus à ce qu'on appelle des conflits au sein du couple. Il peut y avoir dans un couple des conflits même assez virulents hein, entre deux personnes, mais il y a l'idée de symétrie là-dedans. Alors que pour la violence conjugale, c'est une violence qui est généralement asymétrique, unidirectionnelle. Donc entre les hommes et les femmes, dans les violences qu'ils peuvent subir et qu'elles peuvent subir, il y a une différence à la fois quantitative et qualitative.
Il est très clair qu'il existe un arsenal normalement législatif et un arsenal pénal qui permet de lutter ou de rompre ou de condamner en tout cas ces formes de violence. Mais qu'est-ce qui fait alors que malgré tout la violence conjugale subsiste, jusqu'au féminicide par exemple aussi, hein, dans les cas extrêmes, dont on parle beaucoup hélas à nouveau ces temps-ci. Qu'est-ce qui fait que socialement cela subsiste malgré la condamnation et les possibles effets du droit pénal ?
Donc ça, c'est vraiment en fait l'objet de ce livre et des, en tout cas des travaux de recherche qui composent ce livre. Parce que ce livre, il part d'un constat, hein, un constat qui a un paradoxe, une ambivalence en fait, qui entoure la violence conjugale. Donc il y a des discours politiques qui vont lutter contre la violence conjugale, une forte médiatisation de ce phénomène, des textes de loi récents qui visent à condamner et à légiférer autour de cette violence, mais aussi une forte condamnation morale hein, de cette violence. Tout le monde est plutôt d'accord pour dire, après on va le voir que c'est pas aussi simple, mais en tout cas pour dire que la violence conjugale, c'est inadmissible. Mais malgré tout ça, en fait, on voit de l'autre côté qu'il y a en fait une persistance de la violence. Donc, en témoigne le nombre de fémicides qui demeure plutôt stable ces dernières années. Et du coup, on voit en fait qu'il y a une différence entre l'évolution du droit et les pratiques et les mentalités. Et nous, en fait, en tant que psychologues sociaux, on s'est intéressés aux mentalités. Donc, en fait, ce constat, il nous a amené à nous demander, ben, en fait, qu'est-ce qui, dans notre propre contexte social et culturel, contribue à maintenir ces violences. Donc, on s'est intéressé à la façon dont les personnes parlent de violences conjugales, à la façon dont elles pensent ce phénomène, mais aussi à l'impact de ces discours sur les victimes. Donc, en fait, on s'est d'abord rendu compte que l'ambivalence sociétale dont je viens de parler, en fait, elle se retrouve dans la tête des gens. Donc, et c'est pas juste, en fait, certaines personnes qui ont un discours progressiste et d'autres personnes qui ont un discours plus réactionnaire. En fait, c'est que tout ça, ça coexiste chez un même individu. Donc, les personnes, elles vont d'un côté condamner moralement la violence conjugale et, dans un autre temps, mobiliser tout un tas de croyances qui vont tendre à les légitimer. En fait, avec justement les discours progressistes qui viennent remettre en cause le patriarcat, on va voir que celui-ci va se reconfigurer et s'adapter et qui va produire des formes, ce qu'on appelle plus insidieuses de légitimation, plus subtiles. Et nous, les deux formes de légitimation, notamment insidieuses, qu'on a étudiées, c'est le recours à la psychologisation et la valorisation de l'amour romantique.
Quand on interroge les gens en fait, sur quelles sont d'après eux les causes de la violence conjugale, l'explication écrasante majoritaire, c'est la psychologisation. C'est-à-dire qu'on va expliquer la violence conjugale en des termes psychologiques. Bon, pour nous, la violence conjugale, avec notre cas théorique, c'est un fait social, c'est un fait de société. Donner une explication purement psychologique, c'est ça la psychologisation. Et donc on perd la grille de lecture politique et structurelle, puisqu'on va expliquer en termes de personnalité, par exemple. En ce moment, il y a une notion qui est très à la mode, on en parle beaucoup, c'est l'idée de pervers narcissique. Il y a des livres qui sont écrits là-dessus, il y a des magazines féminins qui en parlent. Pervers narcissique, c'est un concept qui a été théorisé par un psychanalyste qui s'appelle Racamier et qui vise à définir des personnalités qui sont caractérisées par le manque d'empathie, la manipulation ou encore le besoin de dominer ou de rabaisser les autres. Et ce qui est intéressant avec cette notion-là, c'est que c'est quelque chose qui va venir complètement occulter en fait, les causes structurelles de la violence conjugale.
C'est une forme d'excuse que l'on trouve.
C'est aussi une forme d'excuse parce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est que quand les individus produisent de la psychologisation, en fait, ils vont avoir tendance à inverser la charge de la responsabilité entre victime et agresseur. Quand on va aller du côté de la victime, on va se demander, elle a subi de la violence, d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a eu une part de responsabilité là-dedans? Comment elle s'est comportée juste avant la violence? La psychologisation, ce qui est intéressant, c'est qu'elle repose sur des stéréotypes de genre. Par exemple, quand on psychologise les victimes, on mobilise des stéréotypes de genre féminin. On va dire qu'elle est naïve, qu'elle est faible, passive, trop soumise, trop empathique, elle manque de confiance en elle. Alors que du côté des hommes, on va produire une psychologisation qui va s'appuyer sur des stéréotypes de genre masculin. Les hommes violents sont des machos, ils sont possessifs, ils se remettent pas en question, ils sont sûrs d'eux, autoritaires, dominants.
Quelles sont les armes à notre disposition globalement? Parce que ça passe évidemment par l'éducation, ça on en a bien conscience, mais pas que. Est-ce que dans l'ordre général de notre société, je veux dire, il reste trop d'emblèmes, en quelque sorte, qui représentent ces sources de différences entre les sexes, telles qu'on vient de les évoquer?
Peut-être que pour répondre à cette question, on peut un peu plus développer sur la seconde forme de légitimation que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire l'amour romantique. Les individus, les personnes vont venir mobiliser la question de l'amour romantique pour légitimer la violence. Une certaine vision de l'amour qui est très diffusée dans les productions culturelles et très valorisée et qui est basée sur la fusion, la prédestination de la rencontre, la valorisation de la jalousie et de l'exclusivité amoureuse. Voilà, en fait, c'est l'amour comme valeur suprême. Et en fait, on voit que les individus vont mobiliser, en fait, cette forme d'amour pour occulter cette violence. En fait, s'il fait ça, c'est parce qu'il l'aime. S'il fait ça, c'est parce qu'il est jaloux. Mais en fait, il est amoureux. Comme je disais, hein, cette forme d'amour, elle est très valorisée socialement.
Il l'aime tellement qu'on doit l'excuser qu'il en soit arrivé là.
Tout à fait.
Comment rompre avec ça, justement? Comment rompre avec ça? Parce que c'est vrai que toute la littérature romantique, elle existe, et c'est vrai que les prétoires sont remplis, et la presse qui en fait écho sont remplis, de ce genre de choses. Le mari jaloux qui en arrive à tuer la femme et l'amant, ou la femme et la fille, etc., etc.
La violence conjugale, en fait, elle est perçue comme un fait exceptionnel, en fait. Et du coup, en fait, elle n'est jamais perçue comme étant liée, justement, à toutes ces normes amoureuses et toutes ces normes autour du couple, en fait. Donc, la lutte contre la violence conjugale, elle doit passer, justement, par la déconstruction de ces idéaux romantiques qui sont associés au couple, à la déconstruction des idéaux de la famille comme source d'épanouissement et de réalisation de soi, en fait. C'est qu'on prend toujours la violence conjugale comme finalement une relation qui serait pathologique, qui serait anormale, qui serait liée à tout ça, mais sans prendre en compte, en fait, la structure qui va permettre ces violences. Et en fait, c'est la conception et les normes du couple hétérosexuel.
Autre piste?
Donc, ça, c'est un peu lié à ça, mais en fait, on va toujours penser l'après-coup des violences. C'est-à-dire qu'on va traiter les conséquences médicales sur les victimes, mais on ne va jamais penser les causes structurelles en amont. Donc voilà, sur l'éducation aux rôles sociaux. En fait, les féministes, elles ont réussi à poser un agenda pour lutter contre les violences. Mais en fait, cette grille d'analyse dont on a parlé, qui est très psychologisante, qui est très valorisée et mise en avant par les psychologues, elle ne prend pas en compte, en fait, toute cette grille d'analyse beaucoup plus structurelle et genrée. Alors qu'il faut prendre justement la violence comme un fait, faisant partie intégrante de cette socialisation genrée. Après, il y a aussi une volonté politique, en fait. Les chercheurs, voilà, les sociologues ou les psychologues sociaux, ils vont mettre en avant des choses. Mais après, pour moi, c'est aussi une question de volonté politique et de budget, de volonté de l'État pour lutter sur ces questions.
Dans la mesure où ceci repose évidemment fondamentalement la question de l'égalité homme-femme au sein du couple, parce qu'on s'intéresse là effectivement au couple hétérosexuel, mais ça veut dire quoi? Que le constat global que l'on doit tirer, c'est que encore dans trop de couples, structurellement, la notion même d'égalité entre l'homme et la femme ne sont pas acquis. Ce que le droit dit n'est pas suivi socialement.
Ben c'est ça, c'est pas du tout, c'est pas suivi. Il s'agit pas de dire que tous les couples hétérosexuels sont marqués par la violence conjugale ou que tous les hommes produisent de la violence conjugale. Il ne s'agit pas de dire ça, mais il s'agit de dire qu'on est tous en fait en prise aussi avec des structures sociales, des structures de domination. Et en fait, il y a une autrice qui est intéressante qui s'appelle Raimin Connell, qui est sociologue australienne et qui, elle, elle parle de différents types de masculinité, elle fait une typologie. Donc il y a les masculinités qu'elle appelle la masculinité hégémonique, il y a la masculinité qui s'adonne, on va dire, aux comportements les plus visiblement violents, mais il y a d'autres formes de masculinité, comme par exemple ce qu'elle a appelé la masculinité complice. Typiquement, c'est le conjoint qui peut avoir des idées très progressistes sur les questions d'égalité homme-femme, mais qui finalement va toujours être dans un rapport de passivité par rapport à ces structures sociales, qui va à la fois bénéficier en fait des dividendes du patriarcat, mais sans avoir besoin de manifester des comportements ouvertement sexistes ou d'avoir des conduites violentes. Et donc, ces hommes les plus violents, on va dire, c'est l'aboutissement, c'est sur un continuum, on va dire que c'est le côté extrême de tout un processus de socialisation masculine. Et dans nos comportements des hommes en général, on peut aussi avoir des comportements qui vont être des violences insidieuses, mais qu'on ne va pas coder comme tel. On ne va pas identifier ça forcément comme des violences. Mais c'est tellement ancré en nous qu'on peut être susceptible d'avoir des conduites sexistes sans qu'on s'en rende compte.
Genre ne pas accorder le droit à la parole lors d'une conversation à table avec des amis, renvoyer la femme aux tâches ménagères évidentes, le fait que le choix du programme télé revienne à l'homme s'il y a un conflit entre les choses que l'on veut regarder, etc., etc. Ça veut dire que c'est le début de la glissade. C'est le témoin d'un ordre moral ou social pervers que l'on a en nous et dont on ne se rend pas compte qu'il pourrait déboucher sur plus grave.
En tout cas, c'est des choses qui se passent de façon insidieuse sans qu'on s'en rende vraiment compte. Par exemple, moi, je pense qu'il est très rare qu'on impose à la femme de ne pas parler, mais ça va être dans le fait de couper la parole ou d'avoir tendance à beaucoup plus parler et de façon plus longue aussi. Donc, c'est des choses qui sont ancrées en nous, mais pour lesquelles on ne s'en rend pas forcément compte. Il y a des rôles qui sont assignés Et on se conforme à ces rôles-là sans vraiment se poser de questions. En fait.
Solveig Le Lorrain, j'ai envie aussi alors de vous questionner en inversion. Est-ce que ça veut dire que dans l'éducation des jeunes filles, des jeunes femmes et des femmes, il y a une forme d'acceptation ? Alors, parfois, la violence doit sans doute se concrétiser par le refus précisément de ça, qui peut engendrer alors une confrontation musclée. Mais est-ce qu'il y a d'abord, a priori, une espèce d'intégration explicite ou implicite de ces rôles à l'ancienne, serais-je tenté de dire, dans l'éducation, au point que la jeune fille, la jeune femme, la jeune épouse, la compagne ne trouve pas ça bizarre, a priori, qu'il y ait ce type de comportement ?
Alors ça, en fait, la question de l'acceptation, ou en tout cas de la participation des dominés à leur domination, ça, c'est des grands débats à la fois en sociologie et en psychologie. En tout cas, moi, j'ai pas envie de parler d'acceptation. Et ça, pour ça, je me base sur une autrice qui s'appelle, une féministe matérialiste française qui s'appelle Nicole Claude Mathieu. Et donc, elle, en fait, elle a écrit un texte assez emblématique qui s'appelle « Céder n'est pas consentir ». Étant donné qu'il y a une relation asymétrique, là, on prend en l'occurrence les hommes et les femmes, donc il y a une relation asymétrique entre les hommes et les femmes. C'est pas parce que les femmes, enfin voilà, c'est pas parce qu'elles vont céder qu'on peut parler de consentement ou d'acceptation en fait. C'est plus, oui, voilà, effectivement, d'intégrer en fait l'ordre social dominant et du coup d'avoir intégré l'ordre social dominant, c'est se conformer à ce qu'attendent les hommes de nous et qu'en fait, quand on se conforme à ce qu'attendent les hommes de nous, on accède aussi à une certaine valorisation, mais qu'en tout cas, on ne peut pas parler de consentement ou d'acceptation, mais plutôt en fait de céder, ce qui vient vraiment parler de ce rapport de domination et quelle place on a au sein de ce rapport de domination.
Est-ce que ça veut dire aussi, question à l'un et à l'autre, Solveig Le Lorrain et David Font, est-ce que ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, le phénomène est mieux mis en lumière, donc que ce dont on parle en termes de chiffres, c'est parce que, qualifiant mieux les choses, on documente mieux et on révèle plus, ou est-ce que nous sommes effectivement dans une phase plutôt gênante, parce qu'il y en aurait plus qu'hier ? On a une tendance à croire pourtant que les choses auraient dû s'améliorer avec le temps.
En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'avec la période du confinement, il y a eu une explosion des appels téléphoniques de femmes victimes de violences conjugales. Donc, ces derniers temps, il me semble qu'il y a eu plutôt une hausse des appels, des plaintes. Après, le problème, c'est que les chiffres sur la violence, ce sont toujours des chiffres qui sont soit des chiffres qui sont déclarés. Par exemple, la personne déclare subir des violences conjugales. Et le problème, c'est qu'il y a toujours un décalage entre le moment où on subit de la violence conjugale et le moment où on se rend compte que c'est de la violence conjugale, on identifie ça comme de la violence conjugale, il peut y avoir un gap, en fait. Donc déjà, il y a ce problème-là. Ensuite, le deuxième problème, c'est pas tant la dénonciation des violences, en fait, que la façon dont les violences sont réceptionnées. Quand on va, par exemple, dans un commissariat, on sait bien que c'est toujours très compliqué pour les victimes de porter plainte. On a en souvenir tous ces cas de féminicides qui passent dans les médias et dans lesquels on disait que telle victime, telle personne qui s'est fait tuer par son conjoint s'était plaint pendant plusieurs fois auprès de la gendarmerie et il ne s'était rien passé. Donc il y a des obstacles institutionnels, en fait, aussi, au fait de pouvoir vraiment lutter contre cette violence.
Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, en fait, que lutter contre la violence conjugale, c'est aussi avant tout, une volonté politique. En fait, d'un côté, on va fortement médiatiser ces violences, on va en faire l'objet d'une grande cause du quinquennat, mais d'un autre côté, en fait, on a vu aussi dans ce quinquennat une réduction, en fait, des budgets qui étaient alloués, en tout cas en France, aux associations spécialisées qui luttent sur le terrain pour accompagner et protéger les victimes. Les acteurs ne sont pas formés, que ça soit du côté médical ou en tout cas du côté justice et police. Donc voilà, quand on parlait de volonté politique, c'est ça aussi, c'est agir à un niveau structurel et se donner les moyens pour agir en formant les acteurs sur tout ça.
J'ai encore envie de vous poser la question, évidemment, qui peut paraître un peu classique, mais est-ce qu'il y a une prévalence sociale dans l'exercice de la violence ? Est-ce que ça appartient plutôt à certains groupes ou, comme on disait, niveaux ou classes sociales ? Ou est-ce que, pas du tout, ça traverse à peu près tous les niveaux d'éducation, les niveaux culturels, etc., etc.
Les enquêtes, elles montrent que ce soit l'enquête ANVEF, donc l'enquête sur les violences faites aux femmes réalisée dans les années 2000 ou l'enquête Virage, ce qu'on montre, c'est que la violence conjugale traverse toutes les couches sociales, toutes les classes sociales. C'est peut-être l'occasion de parler du fait aussi que dans les mécanismes d'occultation de la violence, il y a une des stratégies qui consiste à réduire cette violence à certains groupes sociaux. Et d'ailleurs là, par exemple, on vient de sortir de la période électorale en France, et dans les discours, généralement des discours d'extrême droite, on a beaucoup entendu cette idée que Les violences faites aux femmes, les violences sexistes et sexuelles, ce ne sont le fait que des immigrés, des étrangers, des arabes, des musulmans, parce que ce serait constitutif de leur, d'une culture. Et évidemment, c'est un mécanisme d'occultation, puisque, comme on l'a dit, ça traverse toutes les couches sociales, toutes les classes, mais ça a un effet, du coup, alors non seulement ça a un effet de réduire la violence, de la projeter sur l'autre, hein, les autres, eux, et en contrepartie, bah, ça permet de, entre guillemets, blanchir les masculinités blanches, puisque ça les dédouane de la violence. Donc, voilà.
Lorsqu'on reprend quelques chiffres, hein, on voit quand même que de manière assez persistante, 2/3 des victimes de violences conjugales vivent toujours avec leur agresseur, qu'à peine 28% de femmes victimes de violences sont déjà allées voir la police et 16% seulement déposent une plainte, et ça ne change pas, bouger beaucoup. Ça veut dire que ces femmes-là, au-delà du fait qu'elles n'ont pas immédiatement conscience, comme vous le disiez tout à l'heure, David Fonte, qu'il y a un décalage entre le moment de la violence subie et la prise de conscience de la violence, mais est-ce que ça veut dire surtout qu'elles n'ont pas confiance dans l'institution qui serait capable de recevoir en quelque sorte leur plainte ? Parce que pour rester vivre à plus de 2/3 à côté de celui qui fait subir la violence, il y a forcément un rapport explication.
Alors, pour ça, oui, il y a tout un tas d'explications. Il y a une enquête, alors je ne sais plus, qui montrait qu'en moyenne, en fait, avant de partir définitivement d'une relation violente, en fait, il y a 7 départs, en fait. Donc voilà, il y a ces allers-retours. Après, la question, en fait, des freins à la dénonciation des violences ou à parler de ces violences, ils sont multiples, en fait. Il y a la question institutionnelle, comme on a dit tout à l'heure, où en fait, on sait d'avance que notre plainte ne va pas être prise en compte ou qu'on va être jugé. Après, il y a la question des idéaux du couple et de la famille dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a cette idée du couple, en fait, en tout cas pour les femmes au sein du couple, que c'est à elles de prendre en charge le couple et en fait partir finalement. Ça veut dire renoncer à un certain idéal qu'on a dans la société, c'est-à-dire un couple qui dure, un couple qui permet de surmonter toutes les épreuves. Donc en fait, partir, c'est aussi très violent au niveau identitaire et au niveau de ce que ça représente socialement. Il y a la question de l'invisibilisation, en fait, invisibilisation et la minimisation des violences, où ce qui nous arrive, on ne va pas percevoir que c'est de la violence parce que justement, c'est ancré dans ces rôles asymétriques entre hommes et femmes. Il y a tout un tas de raisons, en fait. Il y a aussi la question, sur ce quoi nous on s'est intéressé, c'est la question du jugement social, en fait. Comment, en fait, dans la société, il y a tout un tas de jugements sociaux sur les victimes. Et en fait, ça contribue, en fait, à ne pas aller porter plainte, car c'est associé à une certaine personnalité ou à de la culpabilisation.
Oui, c'est le mot-clé, ça aussi, le regard social, David Fonte.
Le regard social, surtout que, comme Solveig disait, du coup, derrière la question de rompre avec son conjoint violent, c'est la question aussi de renoncer à certains idéaux romantiques, à certains idéaux amoureux. Et cet idéal qui est souvent très fort chez les victimes, en fait, cet idéal dans la société, il est très lié à la féminité, en fait, à l'identité de femme. Et comme le dit Solveig, le rôle qui est assigné aux femmes dans le couple, dans la relation de couple, c'est de gérer le couple, c'est de faire en sorte que tout se passe bien, de faire en sorte que le couple dure. Et se rendre compte, enfin, penser que rompre avec son conjoint violent, c'est finalement échouer dans son rôle, c'est une remise en question aussi de son identité en tant que femme. Et c'est quelque chose qui peut faire souffrance aussi pour les victimes. Et, voilà.
Merci en tout cas de cette mise en perspective d'un phénomène que l'actualité, hélas, ramène encore trop souvent et qui, manifestement, doit nous questionner sur non seulement les fondements et les lois, mais surtout sur les représentations qui guide notre façon de vivre ensemble. La violence conjugale entre vécu et légitimation patriarcale. Vous co-signez, Solveig Le Lorrain et David Fonte, ce livre aux éditions Mardaga.
Merci.